Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bonjour, bonsoir, bon après-midi à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire de succès, le podcast où je retrace chaque jeudi matin le parcours de mes invités depuis l'enfance jusqu'à aujourd'hui. Je suis Fabrice Florent, je suis le fondateur de Mademoiselle, un média web féminin que j'ai lancé en 2005 et revendu et quitté durant l'été 2020 après 15 ans de bons et loyaux services. Je suis aussi l'hôte de trois autres podcasts, Histoire de Daron où j'interview des pères sur leur paternité, Histoire de Mec où je fais parler des mecs, de masculinité et un dernier intitulé La reco de Fab Flo, qui se passe en live sur Twitch et où on discute avec mes invités de leur reco culturel. Si ça vous intéresse, je vous mets tous les liens dans les notes de cet épisode. J'ai réalisé pour Mademoiselle des dizaines d'interviews et je suis heureux de pouvoir vous proposer ce format que j'apprécie tant pendant une heure chaque jeudi à partir de 6h du matin dans votre appli de podcast préféré. Cette semaine, je reçois Laurent Moreau et Benoît Parisot, les cofondateurs de Topito.com, dont vous avez forcément déjà croisé les contenus sur leur site ou sur les réseaux sociaux. Ils ont accumulé des millions d'abonnés sur différentes plateformes, de YouTube à Facebook en passant par Instagram, et leur site accueille chaque mois plus de 10 millions de visites. Ensemble, on discute de la fondation de leur site en 2006, du simple blog à un véritable projet d'entreprise, et surtout de leur approche très, comme ils le disent, artisanale de la création de ce média. On cause aussi de la réalité économique derrière la création et la gestion de ce média indépendant. Il en reste peu de cette envergure sur le marché français. J'espère que vous apprécierez cette entrevue avec très peu de bullshit dedans, même pas du tout, et je vous souhaite une bonne écoute en compagnie de Laurent et Benoît. On est avec Laurent et Benoît, salut tous les deux.
Hello.
Salut Fab.
Comment ça va?
Bah, pas mal, écoute. Comme des futurs déconfinés, si tout va bien.
Tu crois vraiment?
Pas du tout.
Oui, moi non plus, j'y crois pas. Je crois qu'il faut pas qu'on se fasse trop d'illusions. Hein. C'est
à un moment, ça arrivera, c'est ça.
Oui, trop tôt ou tard.
C'est ça.
Vous êtes tous les deux les cofondateurs du site Topito. Topito qui existe depuis bientôt
2006.
15 ans.
Ouais.
Vous rendez-vous compte?
Je dis 2006, ça me semble moins loin que 15 ans.
Ah ouais, tu pourrais faire le faire comme ça.
Je sais pas pourquoi, ouais, 15 ans ça fait beaucoup. Okay. Moi je m'en souviens parce que c'est l'âge de mon fils.
Ah oui.
Donc quand j'ai un doute sur l'un et sur l'autre, je me rappelle que.
Donc t'as créé ton fils en même temps que t'as créé
Exactement,
ta boîte.
Exactement, c'était une année de création.
Bravo. C'est un vrai truc en même temps, je me rends compte que.
Non, c'est vrai, je sais pas pourquoi.
Mais je pense que c'est la trentaine.
J'étais un peu plus vieux que ça malheureusement.
Ah ouais déjà.
Putain, ça y est, je viens de donner mon âge. Oh. Une idée de podcast où on sait que je suis vieux.
Faut bien que tu tiennes ton. En tout cas, bah merci à vous de me recevoir, c'est cool, ça fait un petit moment que je vous cours après et vous vouliez pas parler.
C'est vrai.
Vous êtes vachement dans l'ombre. Et en fait, je sais plus quand est-ce que je pense début d'année, je vous ai dit venez les mecs, je pense que votre histoire est cool et ça serait cool de la raconter. Bon, on se connaît un petit peu, spoiler alert par ailleurs. Et vous m'aviez dit non, ça m'intéresse pas, je sais pas pourquoi d'ailleurs, pourquoi?
Je sais pas, on est assez discret. J'ai toujours peur que Ben dise des conneries, déjà pour commencer. Non, moi c'est plutôt de la discrétion. Et pour être complètement transparent, le fait qu'il y ait succès dans le titre m'empêchait un peu de me dire « tiens, on va se mettre en avant ». Je pense que c'est...
Ah.
Moi, ça, c'est ça où je me disais... Et après, en revoyant la liste des gens qui sont passés chez toi, on a oublié un peu le côté manager, entrepreneur, forcément, etc. Et ça m'a un peu soulagé sur cette notion de succès que je trouve toujours relative, on va dire.
Ok. Et pour toi, Benoît?
Ouais, c'est un peu le fameux syndrome de l'imposteur. Je sais pas, tu vois, mais effectivement, je suis pas toujours à l'aise à mettre en avant tout ce qu'on fait de bien, ce qui est pas un bon truc d'entrepreneur. Hein. J'ai plutôt tendance à me cacher derrière ce qu'on produit, les équipes. Et ouais, c'est peut-être une certaine pudeur ou pas avoir, tu sais, le fameux adage vivons heureux, vivons cachés.
Ouais.
C'est ça, ouais, je sais plus.
Oui, si c'est ça,
c'est ça.
Ouais,
ça ouais. Ouais.
Très très
en
bah
plus,
tu sais, moi
je me cache, mieux je me porte, hein, c'est ça que je voulais te dire.
Tu sais, moi, je viens du Nord et c'était vraiment le béaba de la communication chez la famille Mullier, en fait, qui pendant très très longtemps a préféré ne pas parler que de parler. Donc, depuis, je pense, depuis vraiment début des années 2000-2010, quoi. Il commence un peu à s'ouvrir, mais sinon, avant ça, personne ne savait l'énorme empire qu'il y avait derrière, quoi. C'était vraiment...
Ouais. C'est ça qu'on aurait dû répondre. Qu'on avait tout basé sur la famille Mullier.
Bah écoute, je vous souhaite le même succès que... Parce que vraiment...
Je dis après, c'était pas toi, hein. Moi je suis cohérent, hein. Je tweete plus, je fous rien sur LinkedIn, plus grand chose sur Facebook. Enfin, je pense qu'il y a presque un côté... je fais attention à ce que je dis, j'ai peur qu'à un moment une connerie, tu vois, se retourne contre toi, ou un mot sera appris, enfin voilà, ou transformé un contexte que je maîtrise pas. Ouais, c'est un peu bizarre, ouais.
Ok.
Et à l'inverse, je pense que moi j'en ai écouté un peu plus des podcasts récemment.
Ouais.
Et des fois j'ai entendu des bêtises, et je me suis dit bah on sera pas ridicule à pouvoir raconter ce qu'on a à dire. Donc. Des trucs un peu grandiloquents sur la révolution des médias, etc.
Ah oui.
Ça a tendance à m'agacer un tout petit peu. Donc, oui. Donc on s'est dit, bah, on pourra aussi faire passer une voix plus réaliste peut-être, un peu moins grandiloquente, mais plus, qui nous ressemble plus. Donc voilà. Après,
oui,
chacun choisira la voix qu'il a envie de choisir.
C'est vrai qu'il y a vraiment deux types de discours. T'as les boss de rédaction et de médias qui ont tendance à théoriser beaucoup le truc et à faire des grands discours qui sont en général assez éloignés de la réalité. Et en fait, toi, si tu veux revenir en tant que patron dans des trucs plus réels et plus tangibles, souvent il y a un grand écart.
Ouais, c'est ça.
Ouais, puis c'est aussi avoir conscience de ce qu'on fait, tu vois. On n'est pas à la tête d'un média, d'un journal comme Le Monde ou chose comme ça. Donc on a toujours voulu, tu vois, faire la distinction entre... Je suis pas fan du mélange divertissement et journalisme. Nous, pour le coup, on est du pur divertissement. Ça empêche pas qu'on dise pas de conneries, qu'on fasse les choses pas trop mal, avec une certaine éthique, mais cette espèce de mélange, voilà, on fait du divertissement grand public, on l'assume complètement, et du coup, on a vraiment aucune leçon à donner.
En fait, je trouve que, on en reparlera peut-être un peu après, mais vous avez pris une tangente aussi ces dernières années où vous allez faire des blagues sur des sujets plus sociétaux, ce que là peut-être avant vous aviez moins tendance à faire, où vous vous êtes dit bah peut-être qu'on peut avoir un impact sur les gens aussi.
T'as raison, je pense qu'on l'a fait, on l'a toujours fait, enfin on est toujours parti du principe avec Ben que c'était notre blog, dans le sens où mais dans le sens où on pouvait continuer à en dire ce qu'on voulait, et que si des gens étaient pas, tu vois, je me rappelle que à un moment les gens pouvaient envoyer leurs articles et nous les proposer, et donc on recevait des fois des articles sur les raisons d'être contre l'avortement, et ben on leur disait je crois qu'on va pas le passer, et ils nous disaient vous avez pas le droit, et on disait si on a le droit parce que c'est chez nous et on fait ce qu'on veut. Donc on avait déjà une ligne qui nous permettait de dire ce qu'on voulait, et puis je pense qu'effectivement après les attentats de 2015 on a peut-être ressenti aussi une forme de responsabilité ou de pression différente, et de se dire qu'effectivement tout d'un coup nous on avait la possibilité de parler à 10 millions de personnes très facilement, donc que on devait pas dire n'importe quoi, qu'à un moment on devait baisser le rideau comme les autres si on pensait qu'on n'avait rien à dire, que si ça passait juste par un édito pour dire qu'on était triste et qu'on morflait comme tout le monde, on pouvait le dire. Et peut-être qu'à partir de là, on a eu peut-être une prise de conscience inconsciente que effectivement on pouvait parler d'un peu tout, mais on avait déjà nos conférences de rédac tous les matins pour essayer d'aller chercher des trucs dans l'actualité avec un angle un peu plus topito. Donc là, peut-être qu'on se force un tout petit peu plus. Et puis il y a des fois quand on pense qu'on n'a rien à amener, on fait un pas de côté parce qu'on se sentira pas légitime. On en a déjà parlé avec Johan Fnaget chez Loopsider, ou même avant quand il était chez Libé, etc. Il avait cette obligation de parler d'un accident de bus à l'autre bout du monde. L'avantage de pas être journaliste, comme disait Ben, c'est de dire non, si on n'a rien à amener sur le sujet, il y a une dépêche AFP, on va pas la paraffer, paraphraser, donc on le fait pas.
Ok. On reparle un petit peu de votre histoire.
Allez.
De comment vous êtes retrouvé, etc. Mais avant ça, en fait, l'une des questions que j'aime bien poser aussi, c'est à quoi vous ressembliez toutes les deux quand vous aviez 7-8 ans? Vous
ça,
connaissiez
ça,
pas, hein,
ça
vous,
ressemblait à rien.
Vous étiez
beaucoup moins de barbe déjà.
Vas-y Ben.
Non, mais moi, écoute, 7-8 ans, j'étais quoi, c'est primaire. J'étais plutôt bon élève, banlieue parisienne. Honnêtement, j'ai une enfance heureuse, pas premier de la classe, et en même temps je pense que j'ai toujours essayé de pas être avec les cools, mais quelqu'un qu'on aimait bien, donc on va dire que j'ai évité les balles du collège et du lycée comme ça, puis voilà pour moi 7-8 ans.
Bah écoute, je la prends Ben.
Ouais.
T'étais quelqu'un de normal, tu vois. Et bien moi, à 7-8 ans, on sortait juste de la guerre. Les gens voyaient encore en noir et blanc, tu vois, donc c'était...
Si vieux que ça, Laurent.
À 7-8 ans, moi j'étais fils de gens qui avaient un restaurant et un café. Donc j'étais habitué à avoir beaucoup beaucoup de gens autour de moi. Donc je pense aussi que c'est ça qui me plaît dans le fait d'avoir créé une boîte, c'est d'être entouré de gens tout le temps. Et puis je voulais faire du foot ou être journaliste sportif, je faisais ça toute la journée. Et j'étais plutôt... Je m'en sortais à faire des blagues et à faire que ça fasse que les gens soient plutôt autour de nous que contre nous, parce que quand t'as pas la taille de pouvoir t'imposer physiquement, il faut trouver d'autres moyens. Donc ça marchait plutôt bien, mais le fait d'avoir beaucoup de gens dans un bar fait qu'à un moment il y a du bruit et pour te faire entendre il faut parler différemment. Donc ça m'a forcément aidé d'une manière ou d'une autre.
D'accord. Comment vous vous rencontrez tous les deux? C'est quoi votre parcours professionnel exactement? Enfin, votre parcours peut-être étudiant? Vous avez fait quoi comme études?
Vas-y, Ben.
Chacun de votre côté.
Ouais, moi, je suis plutôt un peu le geek de la boîte. J'ai fait des études plutôt scientifiques. J'ai fait une prépa. Après, je me suis un peu cherché. Je voulais pas forcément. Enfin, j'ai fait une sorte d'école moitié ingénieur, moitié école de commerce. Parce que j'étais pas à l'aise dans l'un ni dans l'autre. Et du coup, le mix m'allait bien. Et puis après, j'ai commencé comme développeur. Tu vois, j'étais un peu. Je suis revenu au jeu du code. J'ai toujours été un peu avec un PC, un peu à coder. Je crois que j'ai fait mon premier site web très très jeune. Et du coup, ça m'a manqué ce côté un petit peu pratique, mettre les mains dans le cambouis. Donc j'ai commencé développeur pour une petite boîte qui s'appelait Monsieur Prix. C'était un comparateur de prix.
Ah oui, je me souviens.
Parce que j'ai fait un stage chez Gamekult parce que j'étais fan de l'équipe derrière le jeu vidéo, c'était très tôt, et puis j'avais rencontré Saïd qui avait monté Monsieur Prix.
Alors Gamekult qui existe toujours, hein, qui est un magazine culte
exactement.
De jeux vidéo qui a 20 ans d'ailleurs cette année.
Exactement, tout à fait, ouais.
Ok, d'accord.
Oh ouais, que je suis quasiment depuis le début, un très très bon magazine.
Et ils avaient très tôt un modèle basé sur l'affiliation, si je me trompe pas. Donc c'était de l'affiliation ou pas, non?
Il y en avait un petit peu, mais je pense que c'était principalement la pub à l'époque.
Et il y avait donc un comparateur de prix.
En fait, ouais.
Et donc Monsieur Prix.
Potes, tu sais, c'était un groupe de potes, ils étaient dans le même immeuble.
Ouais.
Et ils étaient à l'étage du dessus, Monsieur Prix. Et moi, je les avais rencontrés. Et puis voilà, j'avais été embauché en tant que développeur là-bas. Et on a été racheté par Quelcoo dans la boîte dans laquelle bossait Laurent.
Absolument.
Et toi, Laurent, alors
monté.
J'étais à la tête de Quelcoo.
Voilà, c'est ça. Non, écoute, moi, j'ai fait des études de sociologie.
Ok. Donc
un truc très carré aussi. Hein. C'est plutôt les études des gens qui savent pas ce qu'ils vont faire.
Ouais, voilà, c'est ça.
C'est ça. Mais bon, ça me fermait pas de porte. Je voulais m'en ouvrir.
Ouais.
Donc j'ai fait une maîtrise de sociaux et en parallèle une licence d'histoire parce que je savais vraiment pas quoi faire.
Mais tu voulais pas devenir journaliste, tu disais, quand t'étais gamin?
Si, non, en fait journaliste sportif.
Sportif.
Moi, ce que je voulais, c'était rentrer dans les stades et pas payer. Donc
c'était ça ton objectif.
Ça. Lire l'équipe et dire je travaille. Donc ça me disait, cette méridac de gamin, c'était les matchs de la veille.
T'es rédac quand t'étais môme à l'école, tu
rédac libre, tu sais, ça s'appelait rédac libre. Et moi, c'était le match de la veille que j'avais été voir et tout. ça a fait ça. Et bon, après, effectivement, tu finis ces études et t'as pas vraiment d'idée de ce que tu veux faire. Donc, je me suis baladé un petit peu à droite à gauche. J'ai travaillé sur une télé locale qui ne s'est pas montée à Tours, d'où je viens. Et puis après, je suis arrivé à Paris, ça fait très Laurent Boyer comme phrase. Là, j'arrive à Paris et j'ai fait des études, pas du tout. J'ai fait un truc de webmaster dans une école.
Webmaster pour les gens qui
connaissent
ça.
Le webmestre, tout simplement.
C'était à l'époque, au début des années 2000.
Non, l'idée, c'était d'essayer de travailler sur Internet d'une manière ou d'une autre. J'avais, par le biais de ma maîtrise, abordé le fait de pouvoir trouver à peu près tout ce qu'on voulait. Donc, tu sentais qu'il y avait un petit virage qui se prenait sans imaginer ce que ce serait vraiment. Mais ça me disait d'y travailler. Et le fait de faire ce petit école-là pouvait être une porte d'entrée. Il fallait trouver une alternance. Et mon alternance, ça a été quel coup.
Okay.
Et donc, je suis pas resté dans l'école parce que ils m'ont embauché au bout de deux mois. Donc,
ceci dit, c'était pas une vanne, hein, cette histoire de webmaster. Je pense que les plus jeunes ne savent pas ce que c'est.
Ah ben, alors c'est un monsieur qui sait faire du code avec une grosse barbe et qui demande en haut d'une tour. C'est le père Fouras d'Internet, quoi. t'apprenais un peu tout, à coder.
Ouais, c'était
à...
un peu le couteau suisse de l'Internet.
Il faut bien imaginer l'Internet de l'époque. Mais moi, ça m'a permis de mettre le pied dedans.
Quand tu dis de l'époque, c'était début 2000.
C'est toute fin de 99.
Tout fin de 90, ouais.
J'étais embauché Noël 99. Ouais. Et du coup, ça m'a permis. Moi, je voulais pas du tout le côté technique. Je suis nul, hein. Donc, j'ai encore une fois, si j'ai pas les gens autour de moi, je sais pas faire ça. Et ça m'a juste permis de. Je m'étais dit que ça me permettrait de parler avec les gens dont j'aurais besoin et d'essayer de les comprendre, ce qui n'a jamais été le cas. Mais
c'est vrai,
je ne les comprends pas. Non, mais ça m'a derrière. Après, chez Quelcou, ça m'a permis de travailler avec un responsable. Dev, un responsable commercial, et moi je m'occupais plutôt du produit. Donc okay. Donc j'arrivais à ce que je voulais, travailler sur Internet en utilisant plus les mots que la technique. Donc
ceci c'était. Dit, je me permets de te couper, mais c'est une bonne approche, je trouve, d'avoir un peu de connaissances techniques pour pouvoir justement parler avec les développeurs et pour pouvoir comprendre surtout ce qu'ils te racontent.
Bah, ça semblait être un truc quand même technique à l'époque, donc je m'étais dit là.
Ça l'est toujours aujourd'hui.
Ouais, non, mais tu vois, mais je comprenais pas, j'avais peur de pas comprendre. Ouais. Donc, je dis pas que les 2 mois que j'ai fait m'ont permis de comprendre, mais au moins ça m'a aussi soulagé dans le fait que bon, sur Internet il y avait une partie technique et une partie aussi produit orientée autour des mots, de la navigation utilisateur, etc. C'est ça qui m'intéressait plus rapidement, quoi.
Ok. Donc vous vous rencontrez chez Quelcou?
Exactement. Eh bien, oui. Ouais, moi je m'occupais de l'équipe produit pour la France. À Paris, il y avait une grosse équipe à Grenoble, et puis Ben est arrivé dans une des boîtes que Quelcou rachetait, ce qui arrivait assez souvent à l'époque.
À l'époque, ça arrivait tout le temps, même.
C'est ça.
Surtout que Quelcou était une grosse boîte qui avait tendance à vouloir racheter un maximum de petits concurrents pour pouvoir grossir comme ça.
C'est
quoi.
Ça, c'était un vrai truc. C'était tout l'intérêt aussi de travailler dans une boîte comme celle-là. C'est une boîte qui a levé des sous très vite. Donc, nous, on a eu la chance de pouvoir travailler de changer de métier sans changer de boîte, parce qu'on a commencé Quelcou, il n'y avait même pas de locaux, tu vois. Donc, il y avait 4 personnes à Paris. Wow. Et puis après, c'est 200 personnes. Et puis après, c'est 500. Et puis après, ça rachète un site en Angleterre, en Europe du Nord. Donc nous, on se met à voyager aussi pour aller voir nos voisins européens. Et après, c'est racheté par Yahoo. Donc c'est ça qui est super, de pouvoir se dire qu'en fait, sans changer de chaise, j'ai fait plein d'expériences de boîtes différentes, avec l'avantage de la toute petite, de la moyenne moins structurée, de l'énorme avec le siège aux US qui se fout complètement de la France, etc. Donc ça nous a servi d'une manière ou d'une autre dans ce qu'on fait aujourd'hui.
C'est clair. En 5 ans, le fait de voir toutes ces différentes structures, je trouve qu'aujourd'hui, ça te permet de pas avoir de rêve et d'idéaliser. Tu vois, d'idéaliser la grosse boîte. Je pense quand on pense avec Laurent à l'après Topito. Il y a pas ce côté qu'est-ce que ça ferait d'être acheté par un énorme en fait c'était souvent des énormes machines à frustration où les projets avançaient hyper doucement où toutes les décisions se prenaient à un siège américain où si t'es pas du tout aligné avec leur stratégie tu fais rien donc là-dessus ça a été une sorte de mini vie de plein de boîtes comme ça en 5 ans, c'était assez enrichissant même.
Ok, donc là on est toujours début 2000 quoi.
Là ouais, toi, je crois que c'était de 2003-2004 le rachat de Monsieur Prix.
Ouais, c'est possible. Ouais, écoute, nous c'était une petite boîte, on était 4-5 à Saint-Cloud dans un petit appartement, une boîte qui cartonnait et qui s'est fait racheter par le plus gros qui l'a dézingué hein, comme beaucoup de rachats de boîtes de l'époque. Hein.
Oui, mais avec le sourire.
Avec le dézingué avec le sourire.
Ça s'est fait proprement.
C'est ça. Et donc on a travaillé ensemble au début à côté, ensuite dans les mêmes équipes avec Laurent. Et on bossait sur un comparateur de prix, donc c'est pas le truc le plus funky sur le web. Et du coup, avec Laurent, on s'est retrouvé dans cette envie de créer des trucs à côté. Honnêtement, tu voyais des petits blogs émerger. C'était le début où
c'est le début des blogs, hein.
C'est clair, début des blogs 2004. Donc on a lancé plein de trucs comme ça sur des centres d'intérêt communs, que ce soit le foot. On a lancé des
vous allez lancer plusieurs blogs.
On a testé plein de trucs, on repart en même temps. On avait envie à la fois d'apprendre pour nos métiers, c'est-à-dire comment tu montes un blog, comment tu ramènes du trafic, le SEO, des choses comme ça. Donc ça ce que tu pouvais pas faire au sein d'une boîte parce qu'il fallait mettre dans la boucle des équipes techniques qui étaient à Grenoble, etc. C'est tout compliqué d'avoir un serveur, etc. Mais en fait, on s'achetait un petit peu ce savoir-faire en se disant, écoute, on va le monter à côté sur un truc qui nous fait kiffer.
Vous faisiez ça le soir et le week-end alors, c'est ça?
Complètement.
Ouais, la journée, on peut le dire. Hein. Non, mais le midi, je me rappelle, on utilisait les salles de réu pour aller faire nos propres réu. Mais il n'y avait pas de stratégie derrière de créer un empire de quoi que ce soit. Hein. C'était... certains allaient faire du sport, nous on montait des petits trucs parce que souvent ça nous faisait marrer quoi. Donc il y avait des le premier ça devait être le truc sur le AK, c'est ça? C'était ouais, le, ça s'appelait AKTV, parce que moi, j'étais fan de sport,
de rugby.
Et donc, il y avait la danse des All Blacks, et on comprenait pas ce qu'ils disaient. Donc, on avait permis aux internautes de sous-titrer, en gros, ce qui était dit pendant le truc-là.
Ouais, les détournements, tu sais, les premiers détournements. Ouais.
Et donc, après, on a créé un petit site comme ça où tu pouvais détourner d'autres trucs, ça s'appelait Remixito, où tu pouvais...
Ah, déjà Ito, alors.
Il y avait déjà le Ito, c'était à peu près en même temps que Topito. Et puis, d'autres petits trucs, d'autres trucs autour de la musique, toi, Ben, t'as fait autour du ciné. Donc, c'était, franchement, c'était des mini-projets qui n'avaient pas d'autre vocation que de nous faire plaisir sur le moment. Et c'était, on se disait même pas, on verra où ça nous emmène. Non, on fait ça et ouais, je sais même pas s'il y avait de lendemain prévu. C'est là où on voyait déjà qu'il y avait des sacrés visionnaires. Non, mais c'était pour se faire plaisir, quoi. Il y avait pas d'autres envies que celle-là.
Et puis pour apprendre des trucs aussi, comme tu disais.
Ouais, ouais, c'est ça. Mmh. Tu mets en pratique quand même certaines choses que t'apprenais même dans les grandes boîtes. Et puis tu réfléchissais au fur et à mesure à ce que ça pourrait devenir. Ben avait effectivement tout l'historique aussi technique qui nous permettait d'avoir compris que jouer avec les flux des marchands, comme on l'avait fait chez Quelcoup, il y avait des choses à en ressortir, des choses à en extraire et qu'on retrouve aujourd'hui chez Topito. Donc non, tous ces brouillons-là, forcément, ils nous ont servi. Mais ils n'étaient pas vus comme des brouillons, ils étaient vus comme... Topito a été vu à un moment comme un de ces projets-là. Et puis... en bon darwinien, c'est celui qui a mangé les autres.
Comment ça se passe alors l'idée de... Ok, j'imagine qu'un jour vous vous dites, tiens, ça serait marrant de créer un blog de top, c'est ça?
Ouais, c'était dans un train en revenant de Grenoble.
Ouais.
On s'était vraiment fait chier cette journée-là. Et on était 3-4 à rentrer de Grenoble et on a parlé d'un projet qui était le projet de la semaine, en gros, quoi, qui pourrait être ça. Et moi, je venais de lire un petit bouquin où un monsieur faisait des listes pendant tout le livre de Nick Hornby, Haute Fidélité. Et ça nous semblait une idée, une approche marrante, moins structurée, effectivement, qu'un article, plus rapide à créer, plus rapide à lire, et puis beaucoup plus déconnante, puisque ça pouvait être les plus beaux acteurs français à moustache, fait un truc fait en 10 minutes. Mais voilà, c'était plutôt des choses qui nous passaient par la tête. Donc,
Et c'était l'époque où surtout le web n'était pas inondé de listes, de tops, etc.
Ouais.
Donc, BuzzFeed, je crois qu'ils n'existaient même pas à l'époque.
Bah non.
Bizarrement, il y avait un petit côté un peu frais, tu vois. Tiens, ce serait marrant de parler de tout et n'importe quoi sous forme de liste. Bon, aujourd'hui, il y en a un peu plus.
Non, mais oui, le côté listicle de l'Arikane n'existait pas trop.
Ouais.
Donc il y avait sûrement des choses qu'on avait déjà vues de manière comme ça, plus listées que classées d'ailleurs. Mais bon, on regardait aussi les classements de Forbes, tu vois, des trucs pour voir s'il y avait des choses intéressantes à en dire. Et voilà, c'est parti de là avec l'idée d'essayer de se dire que ce qui pouvait payer, c'était la régularité et d'avoir un article par jour.
Voilà. Okay.
Donc tous les soirs, on avait chacun nos jours, et tous les soirs, on ramenait quelques potes pour nous aider à écrire quand on n'avait pas d'idée ou qu'on n'était pas dispo, et puis on faisait un petit article tous les soirs, des fois à l'arrache, quand tu rentrais de soirée et que t'avais pas de...
Ben en a déjà antidaté, je peux le dire.
Ouais, surtout, faut pas regarder. Je sais pas si t'as relu les tout premiers articles publiés sur Mademoiselle, mais premiers articles de Topito, c'est dur.
Bah, il faut pas.
C'est dur, c'est que du texte, il y a aucune image. Quand on fait même les meilleurs films ou les plus belles affiches, il y a pas les affiches. Les tableaux les plus chers, il y a pas les tableaux.
Ouais.
Mais c'est pas grave, je veux dire, c'est aujourd'hui.
Bah, c'est comme ça que t'apprends. Et hop, petite pause auto-promo dans cette interview. Je vous invite à me rejoindre sur ma chaîne Twitch 3 fois par semaine, le lundi, le mercredi et le vendredi à 20h, où je discute d'une reco culturelle avec un ou une invitée. J'en profite aussi pour vous dire que j'ai ouvert un Discord pour discuter avec mes auditrices et auditeurs des derniers épisodes publiés. Vous trouverez tous les liens dans les notes de cet épisode. J'ai hâte de vous y retrouver, mais d'ici là, retour à l'interview. Moi, j'ai une forme de nostalgie quand je retrouve mes vieux articles, parce qu'il y a un côté, ça prouve aussi un peu le chemin parcouru. C'est comme ces youtubeurs ou ces youtubeuses, tu vois, qui enlèvent leurs premières vidéos.
Ouais, ouais.
Je trouve que ça fausse un peu le jeu, parce qu'il y a un côté, si toi t'arrives et que tu dis, comment cette personne a démarré, tu vois pas les nanars du début, en fait. Et c'est dommage.
C'est
je trouve que
non,
c'est,
faut, t'as raison, faut
je trouve que c'est cool.
Mais à côté de ça, il faut aussi replacer la problématique, c'est que tu vas mélanger des choses qui ont été faites dans un contexte de loisir. Des choses qui ont été faites dans un contexte de loisir en 10 minutes versus une boîte aujourd'hui avec des gens dont c'est le métier et qui font ça toute la journée. Donc on compare aussi des choses qui sont compliquées à comparer parce que d'expliquer que tu faisais ça le soir, moi, avec mon gamin qui avait quelques mois et que tu sortais de ta journée de boulot et qu'il fallait commencer un truc en plus. Forcément, aujourd'hui, quand
parce qu'il y a toujours des gens qui le lisent aujourd'hui, vos vieux tops.
Non, mais même en interne. Même en interne, des fois, on recherche et on retrouve et ils nous disent, ah, ça, c'est marrant. Ou ils nous disent, qu'est-ce que c'est que ça? Je dis, mais je ne sais pas, moi. Qu'est-ce qu'il y a marqué? Il y a marqué Benoît sur mon nom, il y a marqué mon nom. Bon, ben, mais Benoît.
Donc, t'as l'auditoire aussi. Hein. Au début, t'écrivais pour tes trois potes et ta mère, grosso modo.
Oui, donc forcément, t'écrivais des choses qui pouvaient être aujourd'hui, si on parlait de politique, entre guillemets, tu vois. Il y a des choses qu'il faudrait étayer un peu plus, tu vois.
Ouais, bien sûr.
Si à l'époque, je me rappelle, on avait fait, Le Pen était pas loin de où il avait déjà été, ou quand il était au deuxième tour, je sais plus exactement. On avait fait un article sur les 10 raisons de ne pas voter pour lui, et on avait mis les présidents du Front National dans 10 langues différentes. Et aujourd'hui, moi, ça me suffisait largement, on avait fait passer ce qu'on voulait, tu vois. Aujourd'hui, il faudrait, se faire pourrir dans les commentaires, on se dirait, bon, je pense qu'on peut faire mieux, on peut faire plus argumenté que de dire qu'il est président du Front National, même si, à mon avis, déjà, ça suffit largement. mais voilà, donc c'est ça la différence.
Ok.
Mais on ne renie pas l'historique, c'est ce qui nous a amené là, donc ce serait
bien sûr.
On dit souvent, c'est un peu ce qui ressort souvent des interviews, c'est un blog qui a mal tourné, Topito, vraiment. C'est un truc, c'était pas un projet de boîte, c'était pas un projet de média. On parlait de vision, je comprends qu'il y en ait, hein, mais alors nous, c'est plutôt, c'est l'anti-vision presque, c'est faisons-nous kiffer, essayons de faire les trucs un peu intelligemment, petit à petit, à notre rythme, avec les bonnes personnes, et puis si ça plaît, on avance comme ça, quoi.
Non, mais il y a bien un moment donné où vous êtes retrouvé dans l'histoire de la boîte à vous dire, ok, qu'est-ce qu'on fait dans les trois ans à venir, quoi. J'espère.
On a tenu comme ça pendant trois ans en blog.
Trois jours. Hein.
Ah ouais.
Ouais, trois ans en plus de notre taf, donc.
Entre 2006 et
2009.
Ouais, 2006-2009. Okay. On écrivait tous les jours un petit article. On a. En fait, ce qui nous a sauvés, c'est presque qu'on n'a pas lâché le rythme. Je pense qu'il y a. Tu sais, ça, je pense que c'est comme pas mal de créateurs aujourd'hui qui la régularité, c'est contraignant, mais le jour où tu lâches, c'est un peu compliqué de repartir, quoi. Et le fait qu'on n'ait pas lâché, c'est ce qui nous a permis, lorsque on était fatigué de nos tafs, qu'on nous a demandé de partir plus ou moins.
Même plus que moi. Hein, à un moment, on nous a dit de dégager. Hein, c'est ça qu'on nous a dit.
Vous êtes fait virer tous les deux, c'est ça?
Non, il est parti comme un prince. Il est parti
en rupture. D'ailleurs, on le dit pas assez souvent, faut le répéter. Franchement, la rupture conventionnelle, chômage, c'est le premier business angels de France, quoi. C'est tellement une chance d'être en France pour ça, vraiment.
Je suis pas du tout sarkozyste, tu vois, mais on peut remercier Sarkozy d'avoir. Je pense que c'est lui qui a instauré la rupture conventionnelle.
Prenons une minute pour remercier Sarkozy.
Non, mais et en fait, au-delà de ça, c'est que avant Sarkozy, si tu étais au chômage et que tu créais ta boîte, on te sucrait tes allocs. Donc tu t'avais plus de chômage, c'est-à-dire qu'on te disait prends tous les risques du monde, et en fait ce que t'avais tranquille peinard à la limite en faisant rien, et en fait si tu décides de lancer ton propre projet, on va te l'enlever. Ouais. Donc ça a incité plein de gens à ne pas créer leur boîte, et donc merci Sarko en fait, parce que
Que t'as une proposition, je suis pas macroniste, mais je crois que t'as une proposition de Macron qui serait de pouvoir permettre la rupture conventionnelle à des gens qui démissionnent. Et je trouve ça tellement important.
Bien sûr.
On a tous autour de soi des gens qui veulent pas quitter leur taf et qui ont pourtant des envies, des projets comme ça. Et vraiment pour nous, ça a été une chance parce que on se sent pas vraiment entrepreneur dans le sens où prise de risque. En plus, tu vois, on avait quasiment 30 ans, on était installés, toi t'avais des enfants, donc. Avant de te dire, j'abandonne tout, je me lance dans ce truc-là qui était un blog qui gagnait pas une thune. Cette sécurité, ça nous a fait dire, ok, on y va. On a deux ans pour transformer un projet de pote en un truc qui peut peut-être nous payer. Et c'était déjà très bien, tu vois, à l'époque.
Donc, mais ça a été un bon coup de pied au cul pour moi. Ben après est parti quelques mois après, mais pour moi de me faire virer sur le moment, c'est pas très agréable. Surtout que t'es là depuis 9 ans, tu vois. Donc t'es un peu le ficus de la boîte, quoi, tu vois.
Pas un peu. T'étais le ficus, on t'appelait comme ça.
Il fallait juste m'arroser. C'était quand même pas compliqué. Mais c'est pas grave en fait. Sur le moment, tu te dis merde, ça fait bizarre de voir quelque chose sur lequel t'as travaillé. C'est pas ta boîte évidemment, mais tu y as quand même passé du temps, tu vois. Donc tu te vois plus dans l'organigramme. Tu te dis merde, c'est tout bête, hein, mais vous avez pas mis mon nom. Et en fait, non, c'était plutôt voulu. Donc, ok. Et à ce moment-là, on a essayé des petits trucs en dehors, tu vois, d'être un peu consultant pour se rassurer entre guillemets, quoi. Mais c'était frustrant de bosser pour les autres et de savoir qu'ils prendraient pas la moitié de nos idées. Donc là, c'est à ce moment-là où on s'est dit avec Ben, on a un truc quand même où il y a un peu de monde dessus. Il devait y avoir 200-300 000 visites, un truc dans le genre. Tu te dis, essayons d'en faire un média. Sans avoir aucune idée de ce que ça voulait dire, mais au moins en le disant, faisons la chose à fond. Moi, j'avais un deuxième enfant à ce moment-là, donc il fallait vraiment le faire à fond, quoi. Et effectivement, on s'est dit, de toute façon, on a cette aide-là pendant 2 ans, qui est de se dire, notre aide de l'État, on l'a. Laissons-nous le temps d'essayer quelque chose.
Ok. Et vous avez aucun souci à vous dire, ok, bah en fait on s'associe parce que c'est un autre mariage quoi de ce fait-là. C'est plus la même blague que de juste se dire, ok.
Là, je crois que l'avantage c'est ça faisait 3-4 ans qu'on bossait ensemble. Ouais. Donc en fait on se connaissait vraiment vraiment bien, à la fois personnellement, humainement, et même d'un point de vue. Tu sais, on dit toujours qu'il faut être à la fois complice et complémentaire quand t'es associé. Du coup, je pense que moi, j'ai un, enfin, tu vois, si on caricature, t'as grosso modo le geek et la plume, quoi. Le long écrivait bien, était plutôt très drôle. Moi, j'aimais bien
coder,
toucher, avoir des idées de SEO. Et en fait, c'est un peu ce mariage qui a fait que ça a fonctionné au début parce que ça, c'était un équilibre édito un peu technique qui fonctionnait bien. Et ouais, du coup, ouais, en fait, moi, je me suis jamais posé la question. Non, est-ce
pareil.
Que c'est ce mec-là parce qu'on se connaît.
Ok, pareil.
C'est la grosse différence quand on dit faut pas travailler avec des potes. C'est aussi parce que les gens ont souvent jamais bossé ensemble. Ils passent de potes à partenaires ou collaborateurs, ou je sais pas comment on dit, mais
associés.
Ouais.
Bah, c'est ça que je voulais dire.
Partenaire.
Depuis 6 ans, depuis 10 ans, je cherche.
Tu voulais dire en anglais partner.
mais nous, on avait bossé ensemble avant d'être potes. Tu vois. Donc ça inverse le truc qui fait que si tu dis de toute façon c'est un projet sur lequel on travaille depuis 3-4 ans ensemble. Tu imagines pas le faire avec quelqu'un d'autre. Il se trouve qu'à l'époque, on avait un troisième associé. Mais c'était aussi logique, quoi, de se dire, oh, bon, de toute façon, pourquoi changer maintenant? C'est pas parce que ça devient, entre guillemets, sérieux. Nous, en fait, le sérieux, le fait de créer la boîte, rendait pas le truc vraiment beaucoup plus sérieux.
Ouais.
Parce qu'on y passait vraiment déjà beaucoup de temps avant, tu vois. C'est un peu comme quand tu deviens propriétaire de ton appart. Les premières semaines, c'est cool. Au bout de 8 jours, tu te lèves exactement comme un locataire, tu vois. Donc, nous, on se levait pas en se disant, putain, ça y est, c'est ma boîte. Alors oui, on avait une carte de visite. Bon, ça c'est quand même autre chose.
Non, mais ce que je voulais mettre en avant, c'était plutôt le fait que, en fait, c'est quand même pas la même blague, tu vois, de se dire, bah, justement, on crée un blog tous les deux et il n'y a pas vraiment d'enjeu que de, et je pense que c'est important pour les créateurs, pour les gens qui veulent créer des entreprises, de prendre conscience de ça. En fait, c'est quand vous vous associez avec quelqu'un, il y a un vrai truc aussi, à un moment donné, où il faut avoir le même projet. Et tu vois, toi, avec deux mômes et Benoît, je pense à l'époque, t'en avais pas, c'est ouais, ça? Ouais. En fait, vous avez pas forcément la même ambition et la même envie dans le projet, ou toi peut-être tu te dis bah on va peut-être y aller à fond la caisse parce que bah t'es un peu plus vieux, ou tu vois tu peux avoir des dissonances entre vous quoi, tu vois.
C'est vrai, mais comme c'était basé sur un truc où on y prenait aussi plaisir à venir tous les jours, tu vois, enfin à travailler dessus tous les jours, parce qu'on avait aussi travaillé sur ces 9 ans sur des choses qui nous avaient un peu embêtés quoi. Donc alors qu'on a pourtant de très bons souvenirs moi de Quelqu'un et Yahoo, mais il y avait des jours où fallait faire des prêts, où fallait travailler sur des choses dont tu savais qu'ils avaient une mort à peu près certaine, et donc tu dis bah vraiment j'utilise pas mon temps de la meilleure manière quoi. Donc donc là à partir du moment où tu te disais il y a quand même le moyen de se marrer tous les jours et à un moment de d'entrevoir le fait de pouvoir en vivre puisqu'il y avait déjà un peu de revenus avec l'affiliation qu'avait pu mettre Ben, avec un peu de pub qui commençait à arriver, où tu disais bon bah évidemment ça sera pas le même salaire qu'on a pu avoir avant, mais franchement, le rapport plaisir-salaire, pour le moment, il se tente, tu vois.
Okay.
Il se tente et on verra. Mais très clairement, on a ce qu'on en a fait depuis ces 10 ans-là, on n'avait pas du tout une idée de ça. Hein. Faut être très honnête. Hein. On va pas refaire l'histoire avec on avait tout prévu, pas du tout. Le business plan était ridicule.
Il n'y a pas de business plan, en fait.
Ouais, pardon,
c'est
l'avantage. Okay,
non, mais tu vois, aujourd'hui, tu es entrepreneur... si tu te lances à un instant T, il faut que tu saches où tu vas. En fait, nous, le fait que pendant 4 ans, c'était un truc, en fait, on a juste perpétué, on a un peu accéléré, genre, on faisait un article par jour, on a commencé à faire 3-4. Et puis, en fait, j'ai envie de dire, c'est un petit peu toute l'histoire, même 10 ans après. Ça, en fait, tu regardais combien t'arrivais à générer d'argent. Bah, tiens, est-ce qu'on a les moyens d'embaucher? Ouais. Et ben, on va se mettre à chercher. Où est-ce qu'on a besoin de quelqu'un à la rédac, etc. Donc, tu vois, on a construit un petit peu cette aventure. Enfin, le fait que ça existait pendant 4-5 ans avant, ça a été vraiment déterminant sur la façon dont on a avancé.
Ouais, je comprends.
Parce qu'à aucun moment on a dit c'est là où on veut aller.
Ouais, mais je pense que le sérieux qu'on n'a pas forcément eu parce que c'était pas notre savoir-faire sur le business plan, etc., etc., même si on a essayé, même si on s'est renseigné, même si on a essayé de se faire aider, on l'a mis de toute façon dans le fait d'être sans être à l'époque professionnel, parce que la boîte n'était pas derrière, on essayait déjà de faire les choses professionnellement, et ben avec quand même un background web qui nous a quand même aidé, quoi. Tu vois, on savait qu'il fallait pas faire n'importe quoi. Ben avait une vraie, un vrai historique de SEO, etc. Donc on faisait déjà des choses avec un blog WordPress à l'époque, qui est toujours le cas d'ailleurs.
Ouais.
mais
WordPress.
Mais tu vois, on peut passer pour des guignols, en fait, quand on voit qu'il y avait pas de BP très structuré, etc. Nous, on se l'est perçu comme ça.
OK.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ah, vous aviez un peu un petit syndrome de l'imposteur par rapport à
oui,
ça.
Oui, mais parce que de part, je pense, notre historique qui n'était pas un historique business où moi j'avais pas du tout fait ces écoles-là et que j'avais jamais entendu parler de business plan avant d'arriver chez Quelqu'un, tu vois. Donc puis après j'ai vu qu'il pouvait changer tous les 15 jours, donc tu vois ça m'a rassuré. mais moi j'avais pas ça, donc mais avec du recul, je me dis en fait on a fait quand même les choses très sérieusement depuis le début. Et on s'amusait très sérieusement. Donc ça comptait, je pense.
Tu vois, quand tu lis les French Web, les Madines et compagnie, quand tu vois les portraits, moi je m'y retrouve pas du tout. Tu vois, c'est pas moi, c'est pas un syndrome de l'imposteur parce que je renie pas et je sais pourquoi est-ce qu'on en est là aujourd'hui. Mais je me sens beaucoup plus proche. C'est pour ça que à l'époque on s'est rencontrés. C'est d'aventures comme la tienne qui sont peut-être plus artisanales, en fait. On a souvent dit, je me sens plus un artisan du web qu'un entrepreneur, tu vois, parce que j'aime encore être, on est constamment à la rédac du matin, à la conf de rédac pour savoir qu'est-ce qu'on va dire.
Encore aujourd'hui, vous êtes combien? 25, 30 maintenant?
Une trentaine.
Ouais. Et je pense que si je perds ça, c'est que ça m'amuse plus, en fait. Alors tu me diras, il y a 5 ans, je t'aurais dit, mais on sera jamais 30, c'est beaucoup trop nombreux. Mais aujourd'hui, je trouve que c'est une taille de boîte, moi en tout cas, qui me convient bien.
Et puis, on ne se voit pas produire un truc qu'on ne consomme pas, quoi.
Tu vois,
c'était un des soucis qu'on avait vu chez Quelqu'un et chez Yahoo, c'est que tu avais des gens qui n'étaient pas du tout consommateurs de ce qu'ils produisaient. Et ça, c'est pas possible. Tu peux pas faire un journal et ne pas l'avoir le lendemain, quoi, tu vois. Donc, y avait plein de chaînes chez Yahoo où tu savais que ça délivrait, mais quand t'es pas toi-même acheteur de ce que tu fais, c'est pas possible.
Bien sûr.
Donc ça, c'est un truc sur lequel on essaie de lutter, je pense, au quotidien. Et quand on parlait des portraits qu'on peut voir ou entendre dans les podcasts, c'est aussi qu'il y a une part de construction que nous, je pense, on arrive à voir un peu entre les lignes de ce qui est dit, qui finit par nous agacer parce que t'as envie de dire, ça sert à rien, en fait, ce que tu dis. Il vaudrait mieux que tu sois un tout petit peu honnête avec ce que t'es en train de raconter parce que ça, c'est pas utile, ce que t'es en train de... C'est pas utile pour toi, je pense, et c'est pas utile pour les gens qui t'écoutent. Donc, c'est aussi pour ça qu'à un moment, on s'est dit, peut-être qu'on peut raconter ce que c'est nous parce que...
Je pense que
ce sera plus cru, sans doute. Et il y aura un petit peu moins de bullshit, même s'il y en a toujours, on est obligé, c'est une boîte. Je suis pas du tout né dans un bar et je suis pas du tout, j'aime pas le sport. Mais je pense que c'est ça qui nous a un peu agacé, quoi. De temps en temps, de voir des communiqués de presse grandiloquents sur des choix stratégiques de concurrents. Tu te dis, c'est pas possible que tout le monde tombe dans le panneau, quoi. Donc, c'est ça qui nous a fait prendre un peu de recul par rapport à ces prises de dialogue, là, quoi.
L'un des trucs qui vous a permis de vous lancer, c'est là où vous avez votre expérience Quelqu'un qui joue. Moi, c'est un truc que j'ai jamais réussi à mettre en place chez Mademoiselle, en tout cas de façon aussi pro et durable que la vôtre, c'est l'affiliation. Peut-être tu peux, pour les gens qui connaissent pas, parce que peut-être il y a des gens qui connaissent pas comment ça marche, tu peux peut-être expliquer ce que c'est.
L'affiliation, c'est en fait, aujourd'hui, Topito, tu vois, il y a trois piliers de revenus, grosso modo, on vit principalement grâce à la publicité. T'as la publicité classique, display, les bannières, en gros, que tout le monde connaît. T'as le brand content, c'est les articles sponsorisés présentés par une marque. Même si nous on préfère, ça se rapproche plus de. On insiste sur le fait que ce soit un contenu qu'on aurait publié sans la marque.
Ouais.
En tout cas, on essaye au maximum. Et le troisième pilier, c'est l'affiliation. Donc c'est un business, c'est un modèle où on met en avant des services ou des produits et on touche une commission si jamais l'internaute l'achète derrière en passant par nous. Et en fait, c'est un business plutôt sain parce que le marchand paye si jamais il y a eu une vente et puis nous ça nous engage pas des mises en avant, enfin des trucs un peu compliqués comme tu peux connaître sur d'autres sur d'autres types de business et du coup on a intégré ça en fait on a toujours réfléchi à comment bien l'intégrer à la ligne édito Topito qui est du divertissement du assez léger et du coup on a lancé très tôt une rubrique un peu shopping qu'on
appelle shopping marrante quoi
Topi truc ouais voilà ouais. Où l'idée, c'était, la promesse éditoriale, c'était, on va fouiller le web à la recherche d'idées cadeaux vraiment, vraiment connes, vraiment marrantes. Et en fait, qu'on ait un deal d'affiliation ou pas. Et du coup, on a créé ce truc-là. Et après, comme beaucoup de choses de ce qu'on a créé, c'est la régularité, le fait qu'on s'y a pris en avance et qu'on ait fait les choses comme, de manière plutôt propre, dans le sens où, tu vois, on n'a jamais aimé les diaporamas, les slideshows, les trucs comme ça. Enfin, on n'a jamais suroptimisé, tu sais, à une époque où tous les médias, à un moment, c'est du SEO à 100% ou du Facebook à 100%. En fait, on a toujours essayé de construire le truc petit à petit, intelligemment et de manière assez, assez saine. Et voilà, ça a pris. Honnêtement, quand les gens viennent me dire, mais comment vous avez fait pour l'affiliation? Il n'y a pas de recette magique, hein. C'est juste, on a fait les choses comme disait Laurent. Continuer d'être lecteur de ce que tu fais, donc pareil sur la partie topi truc shopping, continuer de... En gros, qu'est-ce que j'aimerais moi comme sélection édito marrante d'objets, c'est ce qu'on propose aujourd'hui.
Et puis on s'est parti aussi d'un projet entre guillemets édito, c'est-à-dire qu'il fallait trouver des produits, comme on passait notre journée sur internet et qu'il y avait une partie du contenu déjà, même si on essayait de se dire qu'on a une partie de création, une partie de curation en se disant on a passé du temps pour vous sur internet, on va vous sélectionner des vidéos ou des produits couillons qu'on a pu voir au fin fond du Japon. On est parti d'abord de produits qui nous plaisaient. Et à partir du moment où on a eu ces produits qui nous plaisaient, il se trouvait que sur certains d'entre eux, on pouvait gagner de l'argent si les gens achetaient. Donc, c'est la promesse, elle va loin. C'est-à-dire que c'est aussi rassurant pour les marques qui travaillent avec nous, qui comprennent que les gens qui passent chez nous sont aussi dans un acte d'achat et qui viennent pas simplement forcément voir un chat qui tombe d'une chaise en 30 secondes, quoi. Donc, ça nous a beaucoup aidé pour montrer que, tu vois, sur le mois de décembre, là, on devrait envoyer plus d'un million de clics chez les marchands. Donc forcément, à un moment, une marque qui est aussi dans une idée de performance, etc., ça la rassure de savoir que nous, on va jusqu'à la fin et qu'on n'est pas payé au clic, qu'on est payé à la vente et qu'on a tout intérêt donc à faire des recommandations de produits que les gens qui passent chez nous sont susceptibles d'acheter. Mais on va toujours plutôt proposer je sais pas quel produit idiot, j'en ai plein qui me passent, mais qui sont pas safe. Donc on va, plutôt un truc de combat de boxe de pouce, tu vois, que le DVD de Foresti ou je sais pas quoi, parce que
c'est plus dans votre ADN.
Que ça nous ressemble plus à ce qu'on aurait envie nous d'avoir ou de recevoir. Mm-hmm. Donc, mais il faut le mix. À un moment, donc aujourd'hui, on a une équipe qui travaille à faire des sélections dans tous les sens. Par âge, par prix, par occasion. Et du coup, tu peux retomber sur les occasions quand on emménage, par exemple, sur des produits un peu plus classiques et puis sur une sélection de paillassons idiots, d'anti-affiches. Mmh. Enfin, il y a plein de choses pour le coup. Il y a vraiment qu'à se baisser, mais il faut passer du temps pour les trouver. Et c'était aussi le travail de Ben, de bien connaître les plateformes d'affiliation, d'avoir su jouer. On avait créé à l'époque de Quelcoup un truc qui s'appelait Quelcoup Insolite, qui est en fait devenu
Topi Truc.
Les Topi Truc. Okay. Donc, c'est en ça que notre historique nous sert aussi.
Ok. Je crois que c'est aussi un petit peu lié au qu'est-ce qu'on peut dire sur le sujet qui a pas été dit, qui a pas été. Tu sais, c'est un peu ce qu'on essaye sur les matins à rédac. Il y a tel sujet. Comment tu peux traiter le truc un peu différemment, même si c'est compliqué d'aujourd'hui forcément de te différencier. Mais voilà, sur la partie un peu e-commerce, c'était ça. C'était qu'est-ce que les autres ne font pas, là, où est-ce qu'on peut aller.
Il y a ça, et il y a aussi pour moi, comme tu disais, l'idée de perspicacité, de persévérance, de faire en sorte de continuer à le faire 10 ans plus tard. Et de, en fait, c'est ce qui fait aussi ce qu'on appelle la longue traîne pour les gens qui savent pas, c'est qu'en fait, vous avez des milliers d'articles, j'imagine, qui rapportent potentiellement 1 euro ou 2 euros par mois et qui finissent par, avec la masse, finir par faire un chiffre d'affaires conséquent, quoi.
Oui, puis il y a l'historique sur Google qui fait qu'on est là depuis longtemps pour certains d'entre eux, qui nous sert, etc. Mais oui, je sais pas combien on a de topi trucs, mais c'est plutôt.
Ouais, même de top, tu vois, quasiment 20 000 articles, quasiment. Ouais. Ouais. Pour le coup, c'était avec le recul, c'était pas une mauvaise idée. Mais c'est vrai que cet équilibre, c'est l'équilibre entre le contenu froid et le contenu chaud. On a besoin de contenu chaud parce que réagir à l'actu, ça nous plaît,
Puis c'est un truc qui marche sur Internet aussi aujourd'hui.
C'est un truc qui fonctionne, mais il y a quand même un côté, tu remplis tu remplis un panier percé parce que ton contenu qui parle d'actu, forcément, quelques jours après, il est un peu décédé. Donc c'est un équilibre à trouver, effectivement, pour que tu t'y retrouves. Et le formaliste, c'est vrai qu'on dit toujours, réfléchissez, est-ce que votre contenu peut survivre si tu tombes dessus 3-4 ans après? On continue à mettre à jour des vieux articles qui ont encore du trafic. Enfin, ouais, je pense que tu as connu ça aussi.
Ouais.
Cet équilibre chaud-froid qui est intéressant. En tout cas, c'était pas forcément pensé comme ça, mais ouais, ça nous a aidé, c'est clair.
L'important aussi, c'est que le Topito aujourd'hui ressemble encore à ce qu'on avait voulu créer à la base. Évidemment, il a des excroissances dans tous les sens. On pensait pas faire de vidéos, on pensait pas que les Topitrucs seraient là, on pensait pas faire du stand-up, toutes ces choses-là qu'on a faites au fur et à mesure. Mais dans l'idée, je pense que il y a pas, j'ai pas honte de ce qu'on faisait. Et je pense que si on s'était vu, vous serez ça dans 10 ans, on aurait trouvé ça bien. Donc c'est plutôt ça.
Ouais.
Je pense.
L'autre truc aussi, tu parlais des vidéos et tout, c'est que vous avez, je pense, très vite, très tôt compris le fait qu'il fallait être partout, sur toutes les plateformes de diff, et vous avez été très très bon, notamment sur Facebook, où vous avez réussi à agréger une communauté assez folle, assez rapidement, et en plus, dans une ligne qui vous correspond, tout en ne saccageant pas ou en ne fermant pas même votre site internet topito.com, ouais, qui aujourd'hui continue à rester votre plateforme de prédilection, si je me trompe pas. Enfin,
ouais.
Vous continuez à publier.
En fait, on la considère comme un des lieux où on peut nous lire sans que ce soit un lieu. C'est un lieu un peu privilégié parce qu'on dit souvent parce qu'on maîtrise mieux ce qu'on y fait. On peut faire des landing pages, on peut faire un peu ce qu'on veut sur le site. Mais à côté de ça, il fallait accepter, et ça a été un petit peu un changement de paradigme aussi, c'est de dire, bon, il faut accepter qu'on mette du contenu sur des plateformes qui ne sera potentiellement pas sur Topito. Donc ça voulait dire de dire distribuer le contenu plutôt que d'imaginer qu'il faille toujours ramener les gens chez soi. Et souvent, on voit que les sites qui essaient de toujours ramener les gens chez eux le font de manière pas organique du tout. Donc, ils vont acheter du contenu un peu partout pour que ça ramène chez eux, parce que c'est là qui génère mieux la pub. Nous, on a toujours essayé de se placer du point de vue du lecteur. Et le point de vue du lecteur, la grosse différence quand on s'est mis à travailler sur Facebook, c'est d'imaginer que il fallait, pour les vidéos, accepter le jeu de dire plutôt regarde la vidéo là où t'es, plutôt que de lui dire viens voir la vidéo ailleurs. Parce que c'est toujours plus facile d'être en train de consommer ce qu'on est en train de voir plutôt que d'imaginer emmener les gens ailleurs et les prendre par la main, parce que ça n'existe pas.
Tu dis ça avec le recul, mais je pense qu'à l'époque, pour moi en tout cas, la grosse prise de tête, c'était si vous regardez une vidéo sur Facebook, ça me rapporte zéro.
Ouais.
Alors que si vous regardez une vidéo chez moi sur mon player vidéo, ça me rapporte un peu de sous, quoi.
C'est clair, je pense que c'est la chance qu'on a eue, c'est qu'on avait les ressources pour investir. Parce que t'as raison, en fait, chaque plateforme qui se lance, et tu vois, c'est encore le cas aujourd'hui avec TikTok, par exemple, c'est des paris, en fait. Parce que, en gros, si tu veux bien le faire, il faut que tu crées du contenu dédié avec les codes de la plateforme, et tu vas pas singer, répliquer ce que t'as déjà fait. Ça fonctionne pas, en fait. Donc ça demande de l'investissement, parce qu'effectivement, tu gagnes pas d'argent au début. Facebook n'en gagnait pas, maintenant t'en gagnes un petit peu. Instagram, c'est pareil. TikTok, je pense que ce sera pareil. Et du coup, on a pu se permettre ce luxe un petit peu de se dire, bah voilà, ok, il y a ça, ça existe, et si on veut le faire bien, il faut qu'on prenne des gens dédiés. Et donc, effectivement, ça t'enlève un petit peu la pression de te dire, ok, qu'est-ce que je fais, ou le faire à moitié. Donc, mais ouais, à chaque fois, c'est des interrogations. C'est parfois fatigant parce que tu redémarres de zéro à chaque fois. T'as beau te dire, j'ai une marque média et je suis lu par des millions de personnes chaque jour, et ben, quand tu repars de zéro, c'est pas évident, quoi, de repartir.
Mais je pense qu'on l'avait compris déjà quand on a décidé d'aller dans la vidéo, et forcément à l'époque c'était uniquement YouTube.
Ouais.
Et on l'a compris quand on a vu les commentaires sur des vidéos YouTube qui nous disent, c'est rigolo, vous devriez faire un site. Et on s'est dit, tiens, peut-être à faire des cons.
Juste de publier.
En fait, c'était de se dire, bon, ça y est, on a compris, il y a des gens qui nous consomment sur des plateformes, et on a commencé à recevoir des stagiaires de troisième qui n'avaient pas Facebook, et qui, donc, il fallait expliquer aux équipes, il y a quand même une grosse partie du travail que vous faites qu'ils ne verront jamais. D'où l'idée de prendre les vidéos et d'imaginer qu'elles doivent être multiplateformes, quel que soit le format, qu'elles puissent exister sur YouTube, sur Facebook, sur Instagram, sur Snapchat, et éventuellement aujourd'hui sur TikTok. Ce qui n'empêche pas d'avoir un contenu qui soit dédié à chacune de ces plateformes, mais qui est une partie du travail commun qu'on puisse à un moment imaginer distribuer un peu partout. Donc ça, c'était un vrai changement pour nous, mais en même temps, t'as pas le choix, tu vois. Je pense que c'était pas t'as deux manières de le voir. Soit tu considères que les gens continuent à passer par ton URL parce que ce serait super en tapant hôpitaux dans la barre de recherche. Et soit tu considères que, bah, en fait, c'est pas toi le comportement que tu as quand tu navigues sur Internet. Donc tu passes par les plateformes, donc tu joues le jeu des plateformes. Donc plutôt que de le considérer comme une dépendance, c'était d'imaginer que les gens passent par là. Et ben, allons embrasser ça et essayons d'être le meilleur. Et en imaginant à chaque fois se reposer la question, est-ce que le contenu que je crée là est adapté à la plateforme? Ce qu'on a créé, ce que Benoît a réussi à faire avec son équipe sur Instagram, c'est hyper bien. On a des taux d'interaction super forts parce qu'à un moment, on a dit, voilà, sur Instagram, il faut parler comme ça. On le faisait pas avant. On le faisait pas sur le site. Et ben, comme ça, on va faire aujourd'hui sur TikTok, on se pose la question. On a imaginé des challenges où Ben danse. Bon, bah, ça ne marche pas. Hein. Non, mais soyons clairs.
Étonnant.
Non, non, mais tu vois, il faut réinventer. Donc, c'est compliqué, effectivement, parce que tu vas sur des plateformes, tu gagnes pas d'argent. Et après, en étant réaliste, de toute façon, ce que te fileront les plateformes en termes de thunes sera jamais fou. Donc, il vaut mieux créer une communauté, imaginer à un moment que de toute façon, tu travailleras avec une marque à qui tu diras, nous, on est partout. Si ça vous intéresse de travailler avec nous et d'avoir un discours commun, voilà où on pourra relayer ce message. Ça peut pas pour autant dire qu'on prend pas l'argent des plateformes. Ça veut dire qu'il faut être réaliste. On n'a jamais réussi à faire vivre l'équipe vidéo avec le revenu de YouTube. Donc, acceptons-le et faisons en sorte que ce qu'on soit en train de construire, c'est des fois des vidéos signatures qui coûtent largement plus cher que ce qu'elles rapportent. Mais au moins, nous, après, avec Ben aussi et les équipes, on se dit, putain, c'est vraiment cool d'avoir fait ça. Et on était content d'avoir organisé ce tournage. Donc, c'est ça qui est un peu excitant aussi, tu vois. On peut pas gagner de l'argent tout le temps.
C'est un vrai job de producteur, comme pourrait faire n'importe quel producteur de cinéma, en fait, où à un moment donné, tu produis un film où tu te dis, bah, là-dessus, ça va être un casse-gueule, mais en tout cas, ça vaut la peine de le faire, et d'autres sur lesquels tu te dis, bah, celui-ci va peut-être me rapporter un max qui va me permettre de pouvoir investir sur d'autres projets.
Mais en même temps, il y a certains choix. Pardon, vas-y, je vous en prie, j'allais vous couper la parole, monsieur.
Non, mais c'est exactement ça, et c'est ce qu'on dit aux équipes, ouais. Ce qu'on dit aux équipes, c'est il y a quelques trucs qui financent toutes les conneries qu'on fait et qu'on pourrait pas se financer. Mais c'est un luxe. Hein. On en a conscience en parlant avec des créateurs, en parlant avec des youtubeurs. Ou tu vois, c'est un vrai luxe aujourd'hui. Et c'est l'historique de la boîte qui fait qu'on peut se permettre ça. C'est pour ça que c'est très compliqué. Tu vois, aujourd'hui, quelqu'un qui viendrait me voir en me disant mais comment je crée un média, c'est hyper compliqué en fait. Je sais pas si j'arriverais même moi à refaire ça aujourd'hui. Du jour au lendemain, c'est...
Moi, je crois pas.
Bah non,
moi,
non,
que j'y arrive à nouveau.
On était là peut-être au bon moment et qu'on s'est donné des chances pour que ça arrive, hein, c'est vrai, mais qu'aujourd'hui, on peut regarder sereinement ce qu'on fait sur chacun des pôles, parce qu'on sait qu'il y a des pôles qui nous permettent de financer d'autres pôles, mais qu'en même temps, c'est l'équilibre de l'intégralité de ces trucs-là qui fait que c'est hôpitaux à la fin. Donc, et que si on en enlève un bout, bah, ça sera plus exactement la même chose. Ça veut dire que ça sera peut-être même plus rentable, que ça marchera peut-être mieux sur certaines plateformes. Mais on voit aussi que il y a des gens qui surperforment sur des plateformes et qui ont vraiment du mal à passer le cap sur les autres. Et je pense que notre force, pour le coup, parce qu'on en a, c'est d'être bon un peu partout. On excelle nulle part, mais on est bon partout. Et on ressemble un peu à ce qu'on était à l'école, peut-être, Ben. C'est énorme ce qu'on est en train de dire. Non, mais je
suis assez d'accord avec cette analyse en plus. Enfin, de l'extérieur, en tout cas, je vous vois et je me dis, c'est assez vrai. L'un des trucs que tu oublies de dire aussi, c'est que ce fameux pari d'être un peu partout, vous pouvez le payer aussi en tant que média tous les jours. Parce que le jour où, par exemple, Facebook, à l'époque, en 2017, offrait un reach de Maboul, donc c'est-à-dire le nombre de gens qui voyaient les vidéos était énorme parce qu'ils avaient eu en tête stratégiquement de vouloir aller taper YouTube, tu mettais n'importe quelle vidéo, tu faisais 500 000 vues. Là où aujourd'hui, enfin du jour au lendemain, en fait, le jour où ils ont décidé de couper le robinet, il n'y a plus personne qui avait des vues sur YouTube, sur Facebook, pardon. Et bah aux US où une boîte comme BuzzFeed avait investi embauché un nombre de gens fous pour faire des vidéos, se retrouver du jour au lendemain sur le carreau, quoi.
Je crois qu'on a eu la chance de pas faire partie des gens que Facebook avait choisi aussi pour leur permettre d'investir sur la vidéo. et que du coup, tu t'es frustré en disant, putain, pourquoi pas nous? On fait des sketchs tous les jours, on n'est pas beaucoup à faire de la fiction, etc.
Ouais, parce que vous auriez peut-être acheté, entre guillemets.
Ils ont financé des studios, des embauches, des trucs comme ça.
Mais nous, c'était cohérent, en fait. Tu embrassais l'algo de l'époque, et puis après, il change, effectivement. En deux mois, tu dis, oh là là, c'est beaucoup moins intéressant que ça ne l'a été. Bon, ça change pas drastiquement nos revenus non plus. C'est pas comme si on avait perdu 50% de nos revenus. Donc, en se disant, voilà, nos sketchs étaient drôles avant, je pense qu'ils seront drôles après, même s'ils font 500 000 vues de moins, mm-hmm. tu vois. Donc, faut accepter ça. Il y a des fois aussi, on a des changements de stats positifs dans un sens sur le trafic global, et puis négatives, et à un moment, avec Emma, notre rédacteur chef, il faut se dire, on n'était pas excellent la semaine dernière, on n'est pas nul cette semaine. Donc, quand on regarde la courbe sur le long terme, c'est très bien. Mais effectivement, il faut, de par cette dépendance qu'on évoquait ou le fait d'être présent partout, il faut accepter qu'il y ait des changements que tu maîtrises moins. Mais à l'époque, de toute façon, quand c'était moins, tu étais dépendant aussi des changements Google. Donc, est-ce que les changements Google allaient être positifs pour toi ou pas? On dit qu'aujourd'hui, les gens n'arrivent pas à joindre YouTube pour dire que l'algo a changé, mais on n'a jamais réussi à joindre Google pour savoir comment marchait l'algo. Et aujourd'hui, on a, à la limite, aujourd'hui, plus de réponses. Tu vois, plus de réponses chez Facebook qu'on n'en a jamais eu ailleurs. Donc, même si c'est toujours un peu frustrant, parce qu'ils dépendent d'un truc US qu'ils maîtrisent moyennement, ce qui est logique. Ça a fait partie du jeu d'être avoir une forme de cohérence. Et si on fait pas les choses forcément très très vite, mais on les fait sur le long terme et on gesticule beaucoup moins que d'autres, donc ça paye.
C'est cette non entrepreneuriat, tu sais, quand je disais qu'on est des artisans et pas des entrepreneurs, au final ça nous a aidé parce qu'on n'a pas foncé dans un truc, on n'a pas investi en se disant ça marche, c'est là, on y va à fond. En fait non, ça a jamais été notre envie de lancer plusieurs marques, plusieurs langues. En fait, on préfère s'amuser. Je crois qu'il y a un vrai truc à chaque fois qu'on a un potentiel projet. Le point de départ, c'est pas est-ce que ça va être rentable, c'est est-ce que ça nous plaît. Et en fait, tous les projets qui ont fonctionné, c'est des projets qui nous plaisaient à la base. Tu prends le stand-up.
Oui, j'allais vous en parler. Ouais, mais
en fait, c'est Laurent qui est venu. Enfin, à la base, on a un de nos rédacteurs urbains qui se mettait un peu au stand-up et on a toujours eu cette envie en fait de se dire que cette boîte, elle doit aussi servir de tremplin, ou en tout cas que les gens utilisent aussi cette boîte pour faire ce qu'ils avaient envie de faire, se faire un nom, se faire une expérience, quoi que ce soit. Et Urbain, il voulait se lancer dans le stand-up, on lui a dit bah écoute, c'est super, on va t'accompagner, et en plus
on n'a pas dit c'est super parce que c'était vraiment pas bien.
Coucou Urbain.
Non mais et ce projet de Topi de Comedy Night, on gagne pas une thune avec, on redistribue tout aux artistes évidemment, et mais ça nous plaît. Et en fait, le fait que ça fonctionne et peut, enfin, c'est des, ce genre de trucs qu'on peut, que tout ce qui nous emmerde un petit peu, tu vois, on parlait de brand content, tout ça, ça nous permet de nous amuser sur des trucs. Et je pense que cet équilibre, il vaut tous les business plans, toutes les embauches du monde, quoi.
Et puis, il réussit à faire, faut aussi imaginer, quand on fait le truc avec, à l'envers, on est une vieille boîte internet. Et aujourd'hui,
ça, oui.
On est aujourd'hui des sites sur lesquels t'allais il y a 10 ans. Si on se pose la question, nous, il y en a pas forcément beaucoup. Donc à un moment, ça veut dire qu'il faut aussi faire bouger un peu les lignes. On l'a pas pensé comme ça, mais on s'est rendu compte en faisant des présentations, des plénières en agence ou autre chose, où on ajoutait la brique Comedy Night dans nos prés, qu'on avait fait 3/4 d'heure de prés. Et la première question, c'était alors les Comedy Night. Je me foutais de moi. C'est une page. Sauf que voilà, ils avaient compris que ça avait fait bouger la ligne. Ils avaient compris que Topito, c'était plutôt du divertissement, qu'on travaillait avec des gens à l'extérieur qui sont talentueux sans avoir de talent à Gen Z ou je sais pas quoi, tu vois. Donc c'était des gens dont on était potentiellement proche, sans que ce soit des gens qui dépendent complètement de Topito, qui vivent très bien leur vie tout seul, mais qu'on pouvait activer pour des choses perso, comme des sketchs, comme des mini-séries, et puis comme des choses avec du brand s'il y avait l'occasion d'aller prendre un billet pour eux. Donc ça devenait vertueux, mais sans que ça ait été pensé comme ça. Parce qu'à la base, c'était quand même pas non plus complètement délirant d'imaginer qu'un site qui fait du divertissement sur du digital aille sur du physique. Ça restait l'idée de faire rire des gens. La même chose pour les livres. C'est rassurant pour un mec qui fait du market quand il va faire ses courses de voir un bouquin Topito à Carrefour.
Bien sûr.
Parce que bah il se dit ah putain, ils sont là aussi. Donc et puis un jour il y aura plus d'électricité et puis Topito existera, mon gars. Donc non mais c'est ça qui nous a plu, de se dire que on l'a longtemps dit, effectivement on le dit aux gens qui travaillent avec nous, parce que on a un peu d'historique, de se dire ce que vous retiendrez Topito, c'est pas les votes top, c'est pas à la limite un sketch ou autre chose, c'est l'interaction que vous avez eue avec les gens, c'est les séminaires qu'on organise, la classe verte, la classe blanche qu'on organise tous les ans, etc. C'est ça que vous retiendrez. On le serine vraiment en disant forcez-vous, c'est ça que vous retiendrez, pour que le message passe, et il finira par passer. Et de la même manière, on leur dit, forcez-vous, prenez tout ce que vous pouvez prendre de cette boîte. Cette boîte, normalement, logiquement, elle peut vous ouvrir les portes de l'édition. On espère à un moment de la télé pour certains d'entre eux. Donc, ce que tu as bien fait aussi, tu vois, avec Mademoiselle. Donc, ça nous intéresse. Et il se trouve que derrière, ça peut devenir vertueux, que bon, cette année, on a travaillé sur une tournée en France, je sais pas pourquoi, avec cette histoire de Covid, les gens ne voulaient pas venir.
Ouais.
donc on va y revenir, mais effectivement, il n'y a pas d'argent pour nous toutes les semaines, mais on y va aussi toutes les semaines, tu vois. Moi, j'y vais tous les mercredis, donc c'est intérêt à te plaire, parce que sinon, tu vois, ça devient très chiant. Donc, et à côté de ça, un jour, on a réussi à mettre une marque là-dedans, ouais. À lui organiser une soirée dédiée avec une thématique qui lui est propre, etc. Donc là, tu dis, bah, c'est parfait. En fait, en une fois, j'ai fait tout ce que j'aurais dû faire en gagnant 50 balles le mercredi soir, ce qui n'a aucun intérêt pour nous. Donc, je pense que les humoristes s'en rendent compte qu'on fait ça parce qu'on a envie de le faire. Pas par intérêt. Aujourd'hui, le stand-up a explosé, ce serait facile de s'y coller.
Ouais.
Certains ont essayé, ils arrêtent vite parce que c'est pas dans leur ADN.
C'est dur, ouais, c'est
donc,
sûr.
Donc nous, c'est plus le cas, tu l'as fait aussi, ouais, donc ouais. Encore une fois, là-dessus, on est bien proches. Et ça nous plaît parce que c'est un projet cohérent. Et aujourd'hui, il y a une cohérence à imaginer que le média qu'on est devenu puisse mettre en avant des stand-uppers au mieux pour faire ce qu'ils savent faire, c'est-à-dire avoir des passages de sur scène qu'on diffuse également. Pour certains, ils sont très bons tout seuls. Seb Melia, Verino, à imaginer des choses qui font très bien vraiment tout seuls. Et puis pour d'autres, on peut se dire, on peut être un accélérateur pour d'images pour eux. Ça les rendra pas drôles s'ils le sont, ils le sont, mais on peut aider à faire que c'est une occasion d'être vu supplémentaire, quoi.
Mais c'est intéressant parce que par rapport à cette histoire de business, parce qu'on y revient toujours, mais l'un de mes très bons potes qui lui est pour le coup est un vrai businessman, quand je lui ai expliqué un petit peu ce que je faisais sur Mademoiselle, à faire découvrir les Bérangère Krief, les Marion Séclin, les Alison Wheeler, etc., il me disait, mais pourquoi tu les signes pas? T'es ma boule. Tu pourrais devenir producteur de talent. Bah, tu parlais de Talent Agency tout à l'heure. Tu pourrais devenir producteur de talent et en fait, derrière, forcément, tu les signes. Et l'intégralité de ce que Bérangère va gagner en faisant son spectacle, bah t'en prends 10%. Je dis, ah, mais moi, ça m'intéresse pas. Et je pense que vous êtes un peu dans cette logique.
Bah, en fait, en plus, tu travailles avec des gens qui t'ont pas attendu. C'est-à-dire que souvent, ils ont une existence. Soit ils ont déjà un prod pour faire de la prod réellement. Et puis la prod digitale et la prod physique, c'est quand même deux choses bien différentes, deux métiers. C'est des gens aussi qui sont, pour certains, volontairement très indépendants. Donc, imaginez les rentrer dans un cadre. Ça, c'est la deuxième chose. Le troisième chose, c'est que ce cadre-là, nous, on le maîtrisait pas du tout. Et là, on a décidé d'aller accompagner Urbain. On a créé une petite boîte de prod pour accompagner Urbain. Donc, parce que ça nous semblait logique de se dire, si on va jusqu'à faire du physique et le fait qu'il puisse dépendre un peu de nous sur ce qu'on pourrait trouver, louer le théâtre et l'accompagner dans la création de son heure de spectacle, bah il faut le faire avec le vrai cadre possible, quoi.
Et mais en revanche, Urbain est un de vos salariés, en fait.
C'est ça.
Ouais, c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire c'est que. Ça.
Mais parce qu'il est aujourd'hui directeur créa vidéo.
Ouais.
Commencé en stage. Je sais pas pourquoi on l'a pris, mais on l'a pris. Et puis on l'a même gardé. C'est ça qui est dingue. Et du coup, aujourd'hui, ça nous semblait logique de l'accompagner jusqu'au bout, quoi, parce qu'il a présenté les Topito Comedy Night pendant plus de 3 ans et qu'il tournait sur tous les plateaux, que maintenant il fait le host de plein de choses. Il fallait aller jusqu'au bout du concept et se dire que ce qu'on faisait pour d'autres, on pouvait le faire pour quelqu'un qu'on aimait un peu mieux que les autres.
Donc vous avez créé une structure aujourd'hui pour produire des spectacles.
Mais,
quoi.
Mais tu vois, c'est que pour Urbain, il n'y a pas de vocation à devenir.
Bah, j'imagine que si demain vous trouvez un Urbain de 20 ans, vous.
Bah, pourquoi pas? On se ferme pas de porte, c'était plutôt de l'opportunité de se dire que si on le fait, il faut aller jusqu'au bout du process. Il
ouais.
Y a pas de volonté de se développer complètement dessus, mais en même temps, il y a une logique, on voit qu'il y a des besoins pour beaucoup de stand-uppers d'exister différemment, d'avoir un cadre pour les aider à faire des vidéos qui soient mieux montées que certains d'entre eux, avec des sous-titres qui sont visibles ou avec des sous-titres tout court. donc non, il y a plein de choses à faire là-dessus où on pourrait les aider. C'est pas dans l'ordre du jour là, mais dans un coin de notre tête, on se dit qu'on pourrait faire mieux. On sait que des gens continuent de dépenser beaucoup d'argent dans le métro pour mettre des affiches. C'est pas incompatible avec ce qu'on fait, c'est plutôt complémentaire. Mais aujourd'hui, en plus, parce qu'on s'est montré que les gens chez nous, quand ils cliquent, ils finissent par acheter.
Ouais.
On n'est pas très loin, je pense. On est plus proche, nous, d'un achat d'un billet quand on passe sur Topito.
Bien sûr.
Que d'une affiche dans le métro. Donc, il y a une logique maintenant à faire qu'on puisse peut-être se professionnaliser un peu là-dessus. C'est pas là, à court terme. Je pense qu'il vaut mieux qu'on développe des podcasts, TikTok.
Cette année, oui.
renforcer la vidéo, etc.
Ouais.
Mais autour du stand-up, on a trouvé aujourd'hui une existence, qui est propre et qui est logique à ce que Topito fait.
Oui, pour avoir connu plein d'artistes qui ont galéré avec leurs producteurs, qui sont en général pas très fair, pas très juste avec eux, je trouve que si vous amenez un truc un peu sympa avec un cadre un peu sympa qui permet en plus de pouvoir financer le truc derrière rentable. Ça peut,
on estime pas être les meilleurs producteurs de Paris pour Urbain, mais en tout cas, on essaie de faire les choses honnêtement, proprement avec lui, qui fait plus que commencer, mais qui devient très bon, et donc, c'est logique qu'on l'accompagne. Après, s'il veut aller plus loin, qu'il dégage. Non, mais peut-être qu'à un moment, il aura d'autres besoins que les nôtres. Mais aujourd'hui, nous, on s'y retrouve. Ça nous permet aussi de payer les acteurs par la voie classique quand on fait des sketchs, etc. Donc, il y avait une logique à faire ça aujourd'hui. Dire, quitte à faire de la vidéo, il faut l'emmener un peu plus loin que ce qu'on fait aujourd'hui.
Okay.
Moi, ça me plaît aussi vraiment l'idée, cet équilibre de boîte, de ce qu'on fait. Ça me plaît de me dire qu'on permet, tu vois, là, il y a un tournage en ce moment. On file à des créateurs qu'on aime bien, qu'on a une petite salle de podcast, on dit à tous les gens qu'on aime bien, mais venez enregistrer chez nous. Enfin, tu vois, sans partenariat, sans business, sans contrepartie. Enfin, il y a un truc, faire en sorte, le fait que tu puisses aider des gens que t'aimes bien à avoir plus de visibilité. Moi, en tout cas, c'est un truc qui me plaît dans ce qu'on fait et qui va équilibrer. Et à un moment, quand tu te poses la question, pourquoi je fais ça, tu vois, notamment quand ça va pas bien, et c'est des petites respirations qui disent ah putain, si j'ai pu filer un coup de main, ça me plaît.
Et puis ouais, le coup de main autour de la création, quoi. On parle de gens qui se mettent tout seuls sur scène avec qui se font leur propre conférence de rédac, ou des fois qui sont deux et qui trouvent des vannes sur un sujet comme nous on essaie de le faire au quotidien, et souvent on voit des vannes sur scène qu'on a écrit dans des tops, tu vois, donc ils ont une force différente qui est de les jouer et de les amener à un public autrement que nous on le fait, mais c'est vachement bien, tu vois, donc mais ça peut prendre d'autres formes quand on voit Marine avec Marine Bausson, ouais, avec Vulgaire, ouais, en se disant ça serait normal qu'à un moment on puisse aider ces gens-là, les accompagner d'une manière ou d'une autre, parce que ils font des choses très bien et que on a peut-être aujourd'hui des moyens, pas forcément financiers, hein, je pense déjà au fait de, on a des locaux qui en ce moment sont très vides et là le fait d'accueillir un tournage aujourd'hui, ça nous semble logique, parce que c'est de se dire pourquoi galérer, nous on a des choses, on peut se permettre de faire ça, on adorait que des gens l'aient fait pour nous, donc faisons-le.
Ok, c'est quoi vos projets en dehors du fait de sortir peut-être de cette crise sanitaire? Mais d'ailleurs, on peut peut-être en parler. Comment vous avez fait pour gérer ça en termes de boîte, cette folle crise?
Comment on a fait? On a improvisé. Alors, on a la chance de c'est des équipes qu'on connaît bien. Chez nous, il y a peu de turnover, donc c'est des gens avec qui on travaille depuis longtemps. Tu vois, notre premier employé, Ronan, il est toujours là. Donc aujourd'hui, tu les découvres pas. On n'a pas découvert de gens au comportement très erratique parce que c'est une pandémie. Donc,
Ça pourrait. Hein,
non, mais ça pourrait. Il y avait pas ça. On n'a pas découvert les gens. On a vu des gens plus flippés que d'autres, mais c'est complètement normal. Donc, on a essayé de s'adapter. On a mis d'abord, on a essayé de rassurer sur le fait que la boîte devrait s'en tirer. On n'en était pas convaincu les deux premières semaines, mais on se disait que sinon on allait mal, il y allait avoir du dégât avant. Et puis, au fur et à mesure, on s'est adapté. On a adapté le présentiel à quelque chose de très faible. On a aussi la capacité à bosser à distance. Alors, sur la durée, on voulait voir ce que ça pouvait donner. Sur la durée, les gens jouent le jeu. On a forcé des rendez-vous avec la conférence de rédac qui a toujours lieu à la même heure qu'avant, sauf qu'elle est en visio. C'est mieux quand les gens mettent leur caméra, parce qu'on est sûr qu'ils mettent un froc. Et puis, au moins, on se parle, tu vois. On se parle, on se voit.
Tu dis, tu peux être en slip, en webcam, ça marche.
On travaille pas bien en slip. Je l'ai fait en bosse pas bien en slip. À un moment, tu vois, la chaise colle, etc. C'est pas bien. Donc, on s'est adapté. À un moment, on a demandé aux gens de revenir un peu plus au boulot cet été pour... recréer aussi ce qui fait Topito, c'est le lien qui fait qu'on est ensemble. Hein. On a bien conscience, encore une fois, que nos valeurs font qu'on est... C'est pas du tout une boîte paternaliste, mais on les soigne, on les aime bien, on fait en sorte que ça dépasse le cadre de la boîte.
C'est pas vrai d'être un peu paternaliste, je trouve.
Ouais, mais ça peut être vu comme péjoratif, une boîte. On va les faire en sorte qu'ils habitent à côté de la boîte. Et puis...
j'ai un petit côté fin 19e, début 20e.
Moi, je viens du Nord, si tu veux, donc le truc des mines, ça me parle.
S'ils pouvaient tous habiter dans l'immeuble, ce serait mieux. On essaie de faire attention à eux, et inversement, on sait qu'ils feront attention à nous si on a des soucis. Donc, je pense qu'on s'en est bien tiré en faisant en sorte que de suivre les recommandations. Dès que ça devient galère, on se replie tous. Et puis là, aujourd'hui, on a réouvert les locaux pour les gens qui veulent, parce qu'ils habitent pour certains dans des apparts plus petits et que il faut comprendre aussi le besoin de s'extirper d'appartements qui sont plus petits que les nôtres parce qu'ils n'ont pas le même âge que nous. Mais on oblige les masques, que je remets.
je pense que c'était aussi beaucoup, tu sais, quand tu diriges, tu prends souvent des décisions. Et là, c'était une période, en fait, où on n'en sait rien. Et vous, en fait, vous en pensez quoi, vous? Qu'est-ce que vous avez envie de faire? Comment vous avez envie de bosser? Est-ce que vous avez envie de revenir? En gros, c'était aussi beaucoup, on s'est vachement appuyé sur eux et sur leurs envies, leurs états d'âme, qui étaient vraiment différentes. Hein, et donc, la complexité, c'est de prendre en compte individuellement chaque personne. Et collectivement, on s'en est très bien sorti. Après, tu sens qu'il manque un truc, c'est ce que je disais tout à l'heure. Moi, en tout cas, personnellement, je me suis rendu compte que ce qui faisait l'intérêt de cette expérience, de cette aventure, c'était cette créativité qu'on pouvait amener en étant ensemble, en buvant un pot le soir, en mettant la musique à fond, tu vois, en plein après-midi. Enfin, toi, tout ce qui fait que t'es pas un média en ligne et tu vas pas balancer ton article dans un back-office, quoi, grosso modo.
Ouais.
En ayant un bien commun, quelque chose de partagé, quoi. Donc, effectivement, qui se limite pas à faire chacun ses tâches de son côté. Donc là, dernièrement, on a essayé de faire en sorte qu'il y ait des moments dans la semaine où chacun travaille sur un truc qui n'est pas son travail original. Pour renforcer encore un tout petit peu ce lien au moment où il s'est distendu, en se disant, prenez 3 heures, 2 heures pour bosser sur la vidéo, sur la partie sociale, sur la rédac, sur trouver des produits pour le content commerce et le shopping. Donc ça renforce un tout petit peu pour mieux comprendre ce que font les autres plutôt que de l'expliquer, fais-le, quoi. Mais ça, on l'aurait pu le faire très naturellement si tout le monde était présent dans les locaux. Ça a peut-être encore plus de sens aujourd'hui qu'ils n'y sont pas. Et aujourd'hui on a aussi des managers, on est assez nombreux pour avoir un relais auprès de responsables d'équipe, et que on informe, on essaie d'être le plus transparent possible sur les chiffres. Et on les informe aussi de où on leur demande ce qu'ils pensent qu'il faut faire. Est-ce qu'un jour par semaine c'est trop, c'est pas assez? Est-ce qu'on le fait par équipe? Est-ce qu'on le fait chacun vient quand il veut? Donc aujourd'hui c'est agréable d'avoir ces relais là et de se dire que la boîte tourne beaucoup plus sans nous que ça n'a été le cas, tu vois. Et comme Ben veut partir, moi je l'annonce, Ben veut partir.
Non, vous parlez, c'est...
Ah, il fallait bien que ça sorte à un moment, tu vois.
Mais c'est quoi vos projets pour 2021 avant que vous partiez, alors?
Non, les projets...
Enfin, quand Ben parte.
Ouais. Bon, Ben, c'est fait. Les projets... On n'a jamais de projet... je pense qu'il y a des choses qu'on veut mettre en place, qui est celle qu'on n'a pas pu mettre en place cette année. Notamment toute la partie stand-up, sur le fait d'aller jouer un peu partout en France et de se faire accompagner par une marque, sans doute pour le faire, pour en faire un vrai produit, qui soit un produit pour les gens qui viennent dans les salles et un produit pour la marque qui pourrait nous accompagner. Ça, je trouve ça assez cool. Et j'y crois beaucoup. Et on est du partout en France. On est bon sur la notion d'identité, de régionalisme, parce qu'on sait que c'est des choses sur lesquelles on va jouer, tu vois, au fur et à mesure.
Vous avez fait beaucoup de top sur les Bretons.
Non, mais il y a quand même une idée de ligne édito derrière, sur l'humour, le côté pratique, le côté insolite, et autour de la nostalgie, de l'identité, qui sont des choses comme ça qu'on sait aborder, et qui fait qu'aujourd'hui, on est lu par des gens un peu dans le monde entier. Déjà en France, puis aussi un peu partout.
Un peu dans le monde entier, vous êtes francophone.
Un peu partout. Ouais. Et donc ça nous plaît. Je pense qu'on doit se renforcer aussi sur la vidéo, être un peu ambitieux sur les projets qu'on pourrait avoir de la mini-série, sortir un peu du one-shot, etc., et qui peut nous amener un peu plus loin qu'on est aujourd'hui. Et puis, on en parlait hier sur la rédac, il y a des choses à imaginer sur le fait de sortir un petit peu du top, ce qui est déjà le cas, parce qu'on a des quiz, on a des battles, on a de la news, on a plein de choses comme ça qui peuvent nous... L'ADN, le mojo sera toujours la liste, mais je pense qu'on peut largement en sortir, et l'important, c'est la tonalité. Sur le social, on a aussi des nouveaux terrains à conquérir, entre guillemets, en se cherchant et en se trouvant sur TikTok, sur Reels. Donc déjà, en utilisant l'existant et embrassant ce qu'il y aura de nouveau, franchement, je me fais pas trop d'inquiétude. On n'a pas dans nos cartons un projet dingo, tu vois. On a largement amélioré l'existant. On doit être plus régulier et avoir un projet un peu ambitieux sur le podcast. je pense que déjà ça nous fera une belle année. Hein. Et sur le, on a Ben et son équipe sur la partie content commerce, donc le shopping en gros, même si nous on dit plus shopping, hein, c'est tellement 2019. Mais ils ont mis des choses en place qui payent là pour Noël et qu'il faut qu'on renforce pour être présent un peu toute l'année avec des formats un peu différents. On a essayé des choses sur la vidéo, on a essayé des manières de le pousser différentes. On a essayé des trucs un peu en physique. On va relancer aussi les livres qu'on a forcément un peu moins fait cette année, mais avant on en sortait 3 par an. Là, on a un nouveau petit projet qui sortira à l'été. On a fait des jeux de société les 2 années dernières et pas cette année, donc on veut le relancer. On essaye là une petite box autour du stand-up qui soit dématérialisé. Donc il faut aller un tout petit peu plus loin que le purement digital, mais déjà dans le digital, franchement, on aurait de quoi travailler dans les 5 ans qui viennent, tu vois. Mais
j'ai rien compris à ta stratégie, Laurent.
Mais moi non plus. Attendez, qu'est-ce que vous me dites? Non, mais je trouve que
le mec parle, il sait pas ce qu'il dit.
Arrêtez-moi. Hein. Non, mais on a des projets dans chacun des silos, même si on les considère pas comme ça. Et l'important, c'est là-dedans de garder la saveur et la tonalité et de faire en sorte que il y ait sans doute plus d'échanges en interne déjà pour mieux expliquer ce qu'on fait et que chacun ait mieux conscience qu'il prenne le temps de regarder les vidéos, qu'il prenne le temps de lire les articles et qui fait qu'on puisse vraiment réellement utiliser les 30 cerveaux avec lesquels on travaille pour produire des choses rigolotes pour Topito. Mais
ouais, c'est ça le gros challenge aujourd'hui, c'est on répète ça vraiment, c'est pour moi c'est le truc le plus important, c'est vous dire aux gens créer du contenu que vous avez envie de lire, de voir, etc. Enfin vraiment c'est, il y a rien de pire que pourquoi t'as fait ce truc là parce qu'on me l'a demandé, tu vois. C'est vraiment, c'est on a la chance de c'est pas possible à 100%, mais en tout cas c'est ce qu'on essaie vraiment de marteler. Et l'autre truc, c'est aujourd'hui, maintenant qu'on est un peu plus nombreux, de faire en sorte que les gens regardent aussi ce que les autres font pour s'inspirer, pour donner aussi son avis. Enfin tu vois, je trouve que c'est hyper important que chacun soit pas dans son contenu ou son équipe, tu vois. Et c'est rapidement le cas, hein, tu sais, quand quand tu grandis comme ça, je pense que t'as peut-être connu la même chose à Mademoiselle. Donc c'est un challenge quotidien, mais pour nous c'est vraiment très important justement que chaque personne et que ça doit être perçu un peu comme une respiration, de te dire bah là on a plein de rédacteurs qui jouent dans les sketchs, qui proposent des trucs, enfin ce mélange. Et en fait c'est pas une stratégie, mais c'est un fil rouge en fait qu'il faut continuer parce que c'est jamais suffisant.
On s'est essayé, même pendant le Covid, on s'est essayé sur la curation en vidéo en prenant quelqu'un, on s'est essayé sur les interviews qu'on faisait déjà mais pour les ritualiser, pour essayer d'en faire à peu près une par jour. Donc tout ça, il va falloir qu'on le valide. Là on le valide, on essaie de le regarder ce que ça donne des 4 derniers mois, on va le valider sur les 6 mois qui viennent. Donc moi je suis très excité en fait encore aujourd'hui.
Ah, c'est beau, hein.
Même si le mot
15 ans plus tard. Non mais
le
c'est
mot
vrai.
Excité va me valoir de faire de foutre de ma gueule dans l'open space. mais je trouve que il y a des choses très marrantes à mettre en place. Même pas forcément dans la nouveauté, mais aujourd'hui trouver notre voix sur les interviews, bah il faut qu'on le trouve. Trouver notre voix dans les podcasts, on va trouver. Mais on va se planter, on va faire machine arrière, on va revenir. Et puis j'espère que des gens aussi dans la boîte vont se révéler sur des choses qui voulaient pas forcément faire et qui vont. On a des gens qui sont passés de la vidéo à la rédac. On espère qu'à un moment, aujourd'hui, on a des gens qu'on littéralement explosé, on trouve nous, en termes d'acteurs, alors qu'ils étaient pas, c'était pas leur truc initial, ou c'était leur truc initial, mais on le savait pas. Ouais. Eux le savaient, mais ils nous l'avaient pas dit. Ouais. Donc, moi, je trouve ça toujours aussi excitant de venir au boulot le matin, quoi.
C'est ouf, hein, après 15 ans, bravo.
Bah, c'est peut-être parce qu'on est trop con pour faire autre chose.
Je crois que ça va être le titre de cet épisode. En tout cas, merci à vous. Je pense que les gens ne se rendent pas compte à quel point c'est compliqué de faire un média rentable en 2020 et surtout dans la bonne humeur comme vous êtes en train de le faire. Après, j'imagine que c'est une vraie boîte aussi, qu'il y a des problèmes humains comme c'est normal, quoi. Ça fait partie du jeu. Mais en tout cas, l'approche que vous avez, je trouve qu'elle est vraiment cool et qu'elle gagne à être connue. C'est pour ça que je voulais vous avoir dans l'histoire de succès.
Merci Fab.
Qui est un vrai succès. Je tiens à dire. Non mais Topito, c'est un succès, bien sûr.
C'est vrai. En tout cas, moi j'ai souvent, avec Laurent, on a souvent parlé de toi parce que je pense que t'es peut-être le mec, la personne qui a vécu plus ou moins la même chose que nous dans l'aventure, à la fois en tant que les difficultés de faire un média. On a plus ou moins évolué avec les mêmes tailles d'équipe, les mêmes enjeux, etc. Donc même si t'étais sur un sujet complètement différent. C'est pour ça que c'est
marrant les parallèles qu'il y a entre nos boîtes, en fait. C'est très intéressant. Bon, Qu'il y avait.
Qu'il y avait, exactement.
Qu'il y aura toujours.
Ouais. Je vais peut-être me lancer dans des podcasts, moi, maintenant.
D'où le départ.
C'est ça.
Bon, en tout cas, je vous souhaite beaucoup de succès. Merci à vous d'avoir parlé.
Merci.
Merci beaucoup pour votre écoute. Avant de nous quitter, si vous avez aimé ce podcast et cet épisode, merci de lui mettre un commentaire sur Apple Podcasts et 5 étoiles de préférence. C'est le meilleur moyen de le faire connaître. Vous pouvez faire comme Macha Chose qui a écrit « Comme toujours avec les podcasts de Fab Florent, on a l'impression d'être une petite souris. Les invités sont intéressants, tout comme leur parcours de vie. On rit, on s'interroge, on apprend et on apprend aussi sur soi. Merci Fab, tes podcasts sont inspirants. » Eh ben merci beaucoup, ça fait plaisir. Et si vous voulez faire comme elle, vous vous rendez sur Apple Podcasts et vous cherchez Histoire de succès directement dans votre appli ou sur votre ordinateur. Merci beaucoup à vous et rendez-vous jeudi matin à la même heure à partir de 6h du matin dans votre appli de podcast pour un nouvel épisode d'Histoire de succès.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.